Donc un petit mot d'introduction. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Cédric Hugret, qui va nous parler donc de la réussite en licence et des études qu'il a menées. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous avons deux séminaires rapprochés, mais voilà, ce sont les aléas du planning. Donc nous avons une autre conférence lundi, même heure, même lieu, lundi 20, et ça sera sur l'évaluation des enseignements par les étudiants et ce qu'on peut en faire, etc. Je vous remercie, je vous donne la parole.
Bonjour à toutes et tous, et merci aussi de l'invitation et aussi de l'organisation de ma vie qui n'a pas été ça. Voilà, je m'appelle Cédric Hugret et je suis chercheur au CNRS, je suis sociologue de formation, mais plutôt un sociologue quantitativiste. Et je viens vous présenter principalement, c'était un peu ça la commande, les résultats parus dans un article qui s'appelle 50% à la licence, mais comment ? Les jeunes des familles populaires à l'université en France. C'est un article qui a été coécrit avec deux collègues, une collègue qui s'appelle Yaël Brimbaud, mais qui est elle aussi sociologue quantitativiste et plutôt spécialiste des trajectoires scolaires et des inégalités scolaires liées au parcours migratoire. C'est une sociologue qui est assez connue pour ça. Et puis un autre collègue qui s'appelle Tristan Pulaouet. Donc Yaël Brimbaud, mais elle travaille au CNAM, elle est maître de conf au CNAM à Paris. Et Tristan Pulaouet, il est maître de conférence à l'Université de Nantes, dans un laboratoire qui s'appelle Le Sens. Et lui aussi est un sociologue quantitativiste et spécialiste des transformations des scolarités des enfants des milieux populaires depuis les années 60. Voilà un peu pour dresser le portrait des auteurs de ce papier. Je vais enrichir la présentation de ce papier de réflexions qui sont en cours et principalement menées avec Tristan Pulaouet, pour la rédaction d'un ouvrage sur l'université actuellement et sur les inégalités à l'université, et aussi d'un papier qu'on est justement en train d'écrire et avec quelques premiers résultats sur qu'est-ce qu'on pourrait produire comme résultat ou comme indicateur sur les sorties sans diplôme ou les ruptures universitaires. Ça fait beaucoup de choses en plus de ce papier, donc je verrai si c'est possible de tout insérer. Cet article, c'est un article long cours, il a mis plusieurs années à être publié, ça a été un travail long et fastidieux. Je vais expliquer un peu deux mots le contexte. Donc, il s'appuie principalement sur ce qu'on appelle l'exploitation secondaire d'une enquête de la statistique publique. La France est connue et plutôt bien connue à l'étranger, et plutôt enviée à l'étranger pour la qualité de ses sources statistiques, et notamment de ses enquêtes qu'elle mène en population générale, qui ne sont pas des sources administratives. Et nous avons participé avec Yaël Brimbaud et Tristan Pulaouet à un groupe d'exploitation, c'est-à-dire un groupe de chercheurs, piloté par l'INSEE, le ministère de l'Éducation nationale, pour exploiter une enquête qui est très importante en France, qui s'appelle les panels de suivi des élèves entrés en 6e. Ce sont des panels d'élèves qu'on tire au sort et qu'on suit pendant toute leur scolarité jusqu'à l'entrée dans la vie adulte, sur le marché du travail. Et ce groupe d'exploitation réunissait une vingtaine de chercheurs et nous sommes les seuls à avoir tenu le pari de publier un texte à l'issue de ce travail d'exploitation. Il y a deux raisons à cela. D'une part, parce qu'il nous a semblé que c'était important, dans un moment de tension à l'université et de controverse sur l'université, de rendre visibles des résultats qui sont à la fois pas toujours à la disposition de tout le monde, et de le faire dans une revue qui a une visibilité assez importante en France, parce qu'elle s'appuie sur deux jambes, d'une part un côté institutionnel lié à l'INSEE, c'est une revue qui est produite par l'INSEE, et puis un autre côté qui est plutôt lié à la statistique et à l'économie, et qui fait que l'économie statique c'est plutôt une revue qui est plutôt une revue d'économistes en France, même s'il est arrivé que des sociologues comme nous par le passé y publient, mais c'est de moins en moins vrai, il faut le reconnaître. C'est aussi l'intérêt d'avoir une revue comme ça, de faire évoluer le papier, hein. On a mis plusieurs années à le publier, donc on a beaucoup travaillé, retravaillé, re-retravaillé. Et puis aussi l'intérêt c'est qu'il est publié en anglais, donc c'est aussi un moyen d'échange avec les collègues à l'étranger immédiatement. Voilà un peu pour le contexte. Alors je vais revenir sur le point de départ de l'introduction, c'est de comprendre déjà comment la licence est devenue en France un nouveau seuil scolaire, et un nouveau seuil scolaire d'une part de la politique éducative, et de la politique éducative française principalement, En fait, ça s'est d'abord passé au début des années 2000 par la réforme LMD qui a profondément modifié l'organisation institutionnelle des études universitaires en France en transformant la licence en diplôme sanctionnant la fin du premier cycle, ce qu'elle n'était pas auparavant. Peut-être plusieurs d'entre vous ont connu la licence comme un diplôme de deuxième cycle. C'était plus le cas jusqu'en 2002, puis après de 2002 à 2004, ça a un peu bougé. Et puis petit à petit, la licence a été associée à l'objectif d'atteindre 50% d'une génération diplômée de l'enseignement supérieur qui a été fixée par la loi Fillon en 2005. Et puis elle se retrouve aujourd'hui à nouveau au cœur de ce qu'au ministère de l'Éducation nationale on appelle la stratégie nationale de l'enseignement supérieur, la STRANES, qui a élevé et précisé cet objectif à 60% de diplômés de l'enseignement supérieur, dont la moitié, donc 50% au niveau licence pour une génération. Et donc petit à petit, la licence est devenue un des pivots de la politique éducative française. Auparavant, c'était plutôt le baccalauréat. Et la licence est aujourd'hui, depuis voilà, une bonne quinzaine d'années, imposée comme un nouveau seuil scolaire. Pour autant, les objectifs peuvent apparaître importants de la politique éducative. Ils ne sont pas loin de la réalité, en fait. Aujourd'hui, on est à 44% des élèves entrés en 6e qui, entrés en 1995, ont obtenu un diplôme du supérieur au terme de leur parcours de formation initiale. Alors la part de diplômés d'un diplôme comme la licence dans une génération, elle est en fait un peu plus élevée encore aujourd'hui parce que si on prend en compte tous les retours d'études, qui ne sont pas si nombreux que ça mais qui existent quand même, en fait on n'est plus très très loin de l'objectif fixé par le ministère de l'Éducation nationale et par les ministres respectifs au début des années 2000. Et il nous a semblé, avec Yaël Brimbaume et Tristan Poulaouec, qu'il y avait un paradoxe dans le fait que la licence, ce diplôme de fin de premier cycle, était devenu un nouveau pivot de la politique scolaire, mais était en même temps un diplôme relativement méconnu de la sociologie de l'éducation. Alors il faut que je fasse un petit point sur la connaissance des inégalités scolaires en France. On est un pays où on a une très bonne connaissance des inégalités scolaires, et où les inégalités scolaires sont documentées depuis relativement longtemps. Hein, la sociologie s'est construite sur l'éducation à peu près au tournant des années 60. C'est à l'INED d'abord, puis au CSE, le laboratoire fondé par Pierre Bourdieu, que l'éducation est devenue un objet sociologique et a été un peu retiré à la psychologie, et qu'on est rentré dans la connaissance, à la fois quantitative, mais aussi ethnographique, des inégalités sociales face à l'école. Mais pour autant, la connaissance des inégalités dans l'enseignement supérieur est elle aussi bien connue aujourd'hui, mais la licence n'avait jamais été explorée en tant que seuil en elle-même. Et donc il nous a semblé que c'était le bon moment de le faire, on avait à la fois une enquête qui le rendait possible, et aussi c'était l'occasion de vérifier toute une série d'hypothèses qui avaient émergé dans les années 90 et dans les années 2000, à la suite de la seconde explosion scolaire, ce que les sociologues et les historiens appellent la seconde explosion scolaire, c'est-à-dire l'arrivée importante d'étudiants dans les premiers cycles universitaires. Un des changements et une des hypothèses en cours sur cette seconde explosion scolaire, c'est qu'on a assisté à un changement de régime de sélection scolaire et sociale à l'université, et qui s'est passé à la fin des années 90 et au début des années 2000. Pour le dire autrement, on ne sélectionne plus aujourd'hui de la même façon les mêmes étudiants, de la même façon qu'avant les années 90. Et il s'est passé là quelque chose d'important, il y a eu une transformation d'une manière de sélectionner les étudiants et de les sélectionner scolairement et socialement. C'est bien sûr lié à la politique de généralisation de l'accès au baccalauréat, j'y reviendrai ensuite. Donc à partir de la fin des années 90, finalement, c'est moins la question ou l'hypothèse de l'auto-sélection des lycéens de milieu populaire qui se pose. C'était l'hypothèse un peu dominante dans les années 80. On avait peur que les étudiants des milieux populaires, où on documentait beaucoup le fait que les étudiants de milieu populaire, à niveau comparable, s'orientaient moins dans les études supérieures. Alors on avait toute une série d'hypothèses très critiquables. D'ailleurs, aujourd'hui, on revient un peu dessus sur le handicap socioculturel. Et enfin voilà, on a progressivement abandonné beaucoup de travaux, plus personne ne documente ça. Voilà. Par contre, ce qui s'est imposé dans le débat dans les sciences sociales, en histoire aussi, un peu en économie, c'est l'idée que les enfants des milieux populaires étaient sous-sélectionnés au moment de leur entrée par rapport aux enfants de cadre, notamment. Ils étaient moins bons, moins performants scolairement. Ils étaient sous-sélectionnés donc par rapport aux enfants de cadre au moment des premiers cycles, quand ils arrivaient en premier cycle universitaire. Et ça, c'est un changement radical de la manière dont l'université, dont le système scolaire français fabrique des entrants à l'université. L'hypothèse dominante dans les années 60, c'est que les enfants d'ouvriers, les rares enfants d'ouvriers qui accédaient à l'université étaient sur-sélectionnés scolairement par rapport aux enfants de cadre. Ils étaient plus performants scolairement. Ils avaient survécu à beaucoup plus de sélections, ils avaient des meilleurs notes au bac. Et dans les années 90 et 2000, l'hypothèse dominante, c'est que les enfants d'ouvriers et les enfants d'employés qui arrivent dans les premiers cycles universitaires sont moins performants que les enfants de cadre et les enfants des classes moyennes. Donc ça, c'est un point important qui est fortement documenté par la sociologie et qui cristallise aussi des tensions politiques. Enfin, il y a tout un débat qui va autour de ces questions de sur- et de sous-sélection scolaire. Et donc, il nous a semblé que c'était le bon moment de mettre les données à l'épreuve de ces hypothèses. Et donc, de revenir aussi sur un point important qui a largement été documenté par Tristan Poulaouec dans son ouvrage « Le diplôme, l'arme des faibles », c'est que pour les enfants des milieux populaires, c'est-à-dire pour les enfants dont les parents sont ouvriers ou employés, les parcours scolaires précoces et l'entrée dans de bonnes conditions dans les savoirs élémentaires, c'est-à-dire au primaire et au collège, a des effets beaucoup plus importants que pour les enfants des classes moyennes et supérieures. Ils résistent encore moins fortement au verdict scolaire. Et puis, c'est aussi Tristan Poulaouec qui a très très bien documenté cet aspect, on a aussi des familles populaires qui ont changé leurs aspirations scolaires, ça se joue dans les années 70 en fait, au début des années 70, massivement, les familles populaires commencent à s'approprier l'enjeu scolaire et à vouloir des études supérieures pour leurs enfants, ce qui n'était pas toujours le cas. Massivement aujourd'hui, alors c'est vraiment, ça explose dans les années 90 et encore plus dans les années 2000, mais aujourd'hui, les familles ouvrières et les familles d'employés aspirent à ce que leurs enfants aient des diplômes de l'enseignement supérieur pour trouver un emploi. On a plein de manières de le prouver, de le documenter. Donc on avait tous ces éléments qui étaient autour de nous, qu'on connaissait bien, parce que nous sommes nous-mêmes sociologues de l'éducation, et on s'est dit, tiens, la licence n'a jamais été documentée à la lumière de ces hypothèses, ça a été le cas pour le bac, ça a été le cas un peu pour l'échec dans les premiers cycles à l'université. Il serait temps peut-être de faire un point, de donner tout un ensemble de résultats qui sont à la disposition des chercheurs, mais qui ne sont peut-être pas forcément connus, et de refaire tourner aussi toute une série d'hypothèses liées à l'origine sociale, enfin voilà, de renouveler un petit peu la connaissance des manières dont on arrive et dont on réussit à obtenir sa licence. Donc l'objectif du papier, il est vraiment de combler une connaissance fragmentaire des manières dont on réussit dans les premiers cycles et dont on échoue, les manières dont on réussit et les manières dont on peut échouer dans les premiers cycles universitaires au début des années 2000. Il est aussi, c'est un objectif qu'on s'est fixé, il est aussi d'avoir une approche statistique au ras des parcours, c'est-à-dire d'éviter autant que possible de parler de choses, de parcours qui n'existeraient pas, enfin, essayer de toujours être collé un peu aux données et d'avoir une visée un peu plus descriptive que théorique. C'était un des points importants de ce papier, ouais, un des points de consensus entre nous. Et puis on s'est attelé ensuite à une description des parcours scolaires du primaire jusqu'à la licence, en fonction principalement de trois variables. Voilà, ce sont des variables classiques des sciences sociales. D'une part l'origine sociale, d'autre part l'origine migratoire et bien sûr le sexe. Il est vrai qu'on avait cet objectif un peu en tête aussi de pouvoir donner des éléments sur la manière dont s'est cristallisé le débat politique sur l'université dans les années 2010. Et notamment à la suite du mouvement de 2009. Donc il nous a semblé que les termes du débat étaient assez mal posés. D'un côté, on avait le retour, en gros, de l'espoir sélectionniste, qui était porté par une partie des collègues, qui, sans le documenter vraiment, mais répétait un peu à l'envi que l'université accueillait désormais que des mauvais élèves, que la situation n'était plus tenable, qu'il était temps de revenir à la sélection, voilà. Et puis de l'autre, on a encore un discours plus progressiste qui rappelle les fondements démocratiques de l'ambition universitaire en France et qui oppose comme argument le fait que la mesure de l'échec est biaisée, que les usages étudiants des premiers cycles sont pluriels, que échouer en première année, c'est pas forcément ne pas avoir de diplôme par la suite, c'est aussi se réorienter, et que les parcours des étudiants aujourd'hui ne sont plus linéaires. Et il nous a semblé qu'on avait le bon outil pour peut-être donner des éléments dans ce débat-là, des éléments empiriques, alors soumis à la critique scientifique, mais enfin voilà, qui pouvaient renouveler un peu les termes du débat. Et donc en fait, on avait des moyens de répondre à deux arguments principaux. D'une part, le premier qui était, on mésestime la valeur scolaire des nouveaux bacheliers, on ne connaît pas bien leur valeur scolaire, et ceux qui tiennent le discours aujourd'hui sur la baisse du niveau scolaire des étudiants sont les moins capables de documenter la valeur scolaire de leurs étudiants. Enfin, de le faire de façon sérieuse, je veux dire. Et de l'autre côté, c'est vrai aussi, il fallait aussi prendre au sérieux le fait que la baisse du niveau des étudiants reste quand même une vieille obsession présente en France, qui est toujours portée par une partie d'une population très particulière, et qui peut être aussi venir du fait qu'en France, l'enseignement supérieur marche à la fois sur les premiers cycles universitaires, mais surtout sur les classes préparatoires aux grandes écoles, et qu'il y a là des tensions qui se jouent entre ces deux manières d'accueillir les étudiants dans l'enseignement supérieur. Donc, voilà un peu pour les éléments de contexte, un peu, voilà les termes du débat, à la fois, on pourrait dire, dans le débat public, et puis aussi dans le débat, pour le coup, scientifique. Comment ces deux choses-là, j'essaie de rendre ça un peu dynamique, mais bon, je vais bien sûr très vite, donc je pourrais revenir un peu en détail sur ces éléments-là. Alors, quels sont nos matériaux ? Je vous l'ai dit, la France est vraiment enviée à l'étranger pour la qualité de ses sources administratives et de ses enquêtes en population générale, et ça fait que la recherche publique, la recherche fondamentale, peut exploiter des sources gratuitement, voilà, à condition de ne pas en faire un usage commercial. On a des guichets aujourd'hui qui nous permettent très facilement d'avoir des enquêtes qui sont très très riches. Alors, l'enquête que nous avons exploitée s'appelle donc les panels de suivi des élèves entrés en 6e. Là, ils sont rentrés en 6e en 95, et leur devenir dans l'enseignement supérieur. Donc, ça représente 17 830 élèves qui ont été tirés au sort dans la base administrative d'inscription des élèves de collège. Ils sont tous nés le 5 du mois. Ils sont rentrés au collège en 6e en 95, et ils sont tous nés le 5 du mois. Alors, je reviens un peu juste sur cette source. C'est important de comprendre que c'est l'enquête historique par laquelle la France a fait la découverte d'un système scolaire éliminatoire et profondément inégal. C'est dans les années 60 en France que l'on découvre que l'école élimine fortement et systématiquement les enfants d'ouvriers. Et c'est notamment par cette source-là historique, les premiers panels de suivi des élèves entrés en 6e, que la France a découvert, de façon quantitative, la force de ce système très sélectionné, qui sélectionnait très très fortement. Et donc, depuis les années 60, c'est une enquête récurrente qui a lieu alors entre en 6e en 1995 et entre en 6e en 1989. Là, on est sur d'autres panels un peu plus récents. Il nous semblait que le panel des élèves entrés en 6e en 1995 était la bonne source parce qu'elle nous permettait d'avoir la profondeur de tout le parcours à l'université. C'est à la fois une cohorte qui n'a pas connu vraiment, qui a commencé à connaître le LMD, mais qui n'a pas connu Parcoursup. Et en même temps, ça nous permettait de nous décentrer de l'actualité brûlante des débats sur l'université. Le temps de la recherche, ce n'est pas toujours celui du débat politique. Mon exposé va se faire en trois temps. Tout d'abord, je vais revenir un peu sur les inégalités face au diplôme de l'enseignement supérieur en fonction de l'origine sociale dans le temps et au fil des générations. Comment ont évolué les chances scolaires, en fait, en France, d'avoir accès à des diplômes de l'enseignement supérieur au fil de ces années de naissance, pour avoir ça en tête. Et donc, je reviendrai aussi sur comment les sociologues utilisent cette variable de l'origine sociale. Et puis, dans un deuxième temps, je reviendrai sur, à proprement parler, plutôt le contenu de l'article, l'entrée dans l'enseignement supérieur et puis les inégalités sociales face à l'enseignement supérieur aujourd'hui. Et puis, dans le troisième temps, je reviendrai sur, spécifiquement, les manières dont on obtient aujourd'hui une licence. Quels sont les grands déterminants scolaires, sociaux et genrés d'obtention de la licence, qui déterminent l'obtention d'une licence, et quelles sont les manières variées aussi. Il n'y a pas une manière d'avoir une licence en France, les manières d'avoir une licence. Alors l'intérêt de ce papier, je l'ai dit, ça a été de combler une connaissance un peu fragmentaire des inégalités sociales et scolaires face à un diplôme qu'on ne connaissait pas. C'est aussi, alors ça c'est plutôt un enjeu propre à la sociologie, mais de proposer une grille de lecture de l'origine sociale à partir de la position sociale et de la profession des deux parents. D'habitude, on avait un point de vue assez androcentré, on dit, c'est-à-dire qu'on se centrait plutôt sur la profession ou du père ou de la personne la plus âgée dans le ménage, c'est-à-dire du père, vu que l'écart d'âge entre conjoints est toujours à peu près stable, c'est toujours celui du père. Et dans le cadre des couples séparés, là, on avait des fois la chance peut-être d'avoir la profession de la mère. C'est un point important parce que les travaux de la sociologie de l'éducation, vous allez voir, il y a beaucoup de questions des filles, montrent que quand on veut comprendre les scolarités des filles, on a quand même tout intérêt à d'abord comprendre le diplôme qu'ont eu leur mère plutôt que leur père. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est un peu inédit dans la sociologie de l'éducation de faire ça comme ça, c'est vraiment de systématiquement essayer de tenir une description de l'origine sociale par la profession des deux parents. C'est rendu possible parce qu'on pose la question dans l'enquête. Et donc, ça nous permet d'avoir une sorte de voie entre deux, une voie médiane, entre la notion de personne de référence du ménage, qui est une notion de la statistique publique, qui existe, il faut le rappeler quand même pour des bonnes raisons, mais qui pose quand même toute une série de problèmes, et puis quelque chose qui permettrait quand même d'approcher la diversité interne des positions sociales. Il y a des pères ouvriers qui sont aussi, ça arrive parfois avec des femmes qui sont instites, profs, enfin voilà. Et ça a des effets sur les scolarités, bien sûr. Alors, je vous raconte un peu au départ comment est faite cette enquête. Donc, cette enquête est une enquête qui tire au sort des élèves qui sont entrés en 6e en 1995 et qui va les suivre tout au long de la scolarité par remonter des données administratives les concernant sur les scolarités. Alors vous allez voir, une des variables qu'on exploite beaucoup, c'est notamment les résultats aux évaluations nationales de français et de mathématiques à l'entrée en 6e, qui sont des éléments très importants et qui pèsent lourd, en fait, et tout au long des parcours scolaires. Et puis, tous les choix d'options, les types d'enseignement sont complétés, sont remontés par les chefs d'établissement qui apprennent qu'un de leurs élèves a été tiré au sort pour cet échantillon. Donc il y a une partie remontée administrative, donc là tout au long de l'année, qui est un vrai défi logistique pour l'administration, hein, parce que les changements d'établissement, tout ça, ça existe aussi. Donc il y a ce qu'on appelle de l'attrition, c'est-à-dire on perd un peu de l'échantillon au fil des années. Et puis il y a d'autre part des enquêtes familles qui sont menées parallèlement. Les familles sont averties que leur enfant est tiré au sort pour participer à une enquête. Et donc, 3 ans après, il y a une première enquête dans les familles en 1998 qui porte sur leurs aspirations scolaires, qui décrit leur logement, on leur pose toute une série de questions sur leurs enfants. Et puis ensuite, en 2002, il y a à nouveau une enquête qui là s'adresse directement aux jeunes. Donc c'est un questionnaire qui est envoyé. Et à chaque fois, pour ces enquêtes à côté, on a des très bons taux de réponse, parce que ça se fait pas forcément par enquête, ça se fait par voie postale souvent. Et on a malgré tout des bons taux de réponse, ce qui fait que ça reste une source qui est bien sûr critiquable et où il y a des imperfections. Et je suis le premier à vouloir aller plus loin, et des fois j'ai des limites et des biais. Mais malgré tout, ça reste une donnée où les informations sont de bonne qualité et où il y a un consentement à l'enquête dans la population qui est tirée au sort, qui laisse entrevoir qu'on a une bonne qualité de l'information. Alors voilà, j'en ai fait un peu beaucoup sur comment on a catégorisé l'origine sociale. En France aussi, et c'est un outil qui est régulièrement envié à l'étranger, il y a plein de pays qui n'ont pas de nomenclature des professions, qui empruntent une nomenclature internationale qui n'est pas du tout adaptée à la situation de leur pays. En France, nous, on a un outil pour codifier les professions. Et cet outil est relativement bien connu, ça s'appelle la nomenclature des PCS, c'est la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles. C'est un outil assez ancien qui témoigne de l'imbrication des liens forts entre la statistique publique et les sciences sociales, notamment des liens entre Pierre Bourdieu et puis l'INSEE, puis toute une autre série de sociologues qui, au début des années 80, ont un peu révisé cette nomenclature qui existait. Et puis à nouveau, elle a été révisée au fil des années. Et cette nomenclature, elle est assez connue parce qu'elle est utilisée globalement dans la presse. Par exemple, quand vous avez des sondages sur le vote, on vous dit « Ah, tant de pourcents d'ouvriers ont voté pour tel candidat » ou... Enfin, voilà, elle est régulièrement utilisée dans son niveau le plus agrégé. C'est aussi une nomenclature qui peut fonctionner à un niveau plus détaillé, plus fin. Elle a 3 niveaux. Nous, on est resté à un niveau agrégé, parce que l'échantillon ne permet pas d'être dans un niveau très fin. Je me suis servi du niveau fin pour faire d'autres enquêtes, mais là, la source ne permet pas. Et voilà un peu la nomenclature de l'origine sociale des étudiants qu'on a mis au point. Une sorte de nomenclature ménage qui fait exprès le choix de détailler un peu plus les situations en bas de la pyramide sociale. D'accord ? Et de regrouper ce qu'on connaît un peu plus, les situations en haut. On est bien au courant qu'il y a en regroupant tous les ménages de cadres ou professions intermédiaires, il y a beaucoup de diversité sociale. Dans cette case 1 en haut, il peut y avoir 2 techniciens, d'accord ? Un technicien d'atelier et une technicienne, je sais pas moi, de maintenance. Et puis, il peut y avoir aussi 2 cadres sup de la fonction publique. Donc, en haut, il y a de la diversité. Mais l'angle de l'article, c'était de documenter plus spécifiquement les scolarités des jeunes des milieux populaires, c'est-à-dire ceux dont les parents sont ouvriers et employés, et de prendre au sérieux une des hypothèses actuelles sur les classes populaires, c'est qu'on est en face d'une fragmentation des classes populaires, qu'il y a des clivages internes qui aujourd'hui sont très importants. Et donc on voulait regarder si les scolarités révélaient ces distances sociales internes aux classes populaires. Et donc on a créé comme ça des couples, des ménages qui vont en gros de situations où les deux parents sont en emploi, dans des emplois populaires mais plutôt qualifiés, où les deux sont employés. Alors c'est très rare d'avoir des hommes employés, ça arrive quand même. Très fréquent par contre d'avoir des femmes employées. Et puis un couple plus fréquent dans les classes populaires, qui est le couple où la femme est employée et où l'homme est ouvrier. D'accord ? Et puis des couples, là aussi c'est important de distinguer un peu le bas des classes populaires, où il y a une inactive et un inactif. On va voir que ça a des effets, l'activité des mères notamment, a des effets très importants sur les scolarités. Alors je l'ai dit dans le premier temps de ma communication, je vais revenir un peu sur l'évolution de l'accès au diplôme de l'enseignement supérieur en fonction des générations. Donc deux diagrammes en bâton qui sont très très simples à lire et très basiques, enfin, et qui est toujours bon de rappeler. À gauche, vous avez les plus hauts diplômes obtenus au fil des générations de naissance par les jeunes d'origine populaire dont les parents sont ouvriers et employés. Donc, c'est-à-dire qu'ils remontent jusqu'à la catégorie 5, de 5 à 10. D'accord ? Bon, c'est pas la même source qui permet de faire ce calcul-là, mais ça me semblait important d'avoir ça en tête. Et donc il y a à côté, à droite, c'est le plus haut diplôme obtenu en fonction de l'année de naissance, d'accord, de naissance, pour les enfants de cadres et professions intermédiaires. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire ? D'une part, effectivement, l'inégalité, la possibilité d'avoir un diplôme de l'enseignement supérieur reste aujourd'hui, ces inégalités restent encore très très fortes en fonction de l'origine sociale. Aujourd'hui, les jeunes d'origine populaire nés entre 1982 et 83 sont entre 28 et 30% à obtenir pour plus haut diplôme un bac plus 2. Au moins un bac plus 2. C'est le cas de 70% des enfants des classes moyennes et supérieures. Donc il y a des écarts sociaux face au diplôme de l'enseignement sup qui sont très 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 importants et qui demeurent. Pour autant, c'est vrai qu'il y a eu des changements dans les scolarités des milieux populaires. Il ne faudrait pas non plus penser qu'il ne s'est rien passé, que les classes populaires ne se sont pas appropriées l'enjeu scolaire, qu'il n'y a pas eu des transformations. Et c'est vrai que la situation des cohortes issues des milieux populaires dans les années 60 n'est pas tout à fait la même de celle d'aujourd'hui. Quand on avait des parents ouvriers ou employés dans les années 60, on avait 10-12% de chances d'avoir un diplôme égal ou supérieur à un bac plus 2. Aujourd'hui, c'est quand même 28 ou 30%, donc c'est voilà, il y a eu une modification aussi. Et puis à l'intérieur des classes populaires, il y a eu aussi une transformation, c'est ce que vient rappeler cette petite courbe. Il y avait des diplômes historiques de la qualification ouvrière, comme le CAP et le BEP, c'est ce qu'incarne cette petite courbe. Et en fait, à partir des cohortes au milieu des années 70, les enfants des milieux populaires qui obtiennent ces qualifications historiques deviennent un peu moins nombreux que ceux qui obtiennent un diplôme de l'enseignement supérieur. Vous voyez ? Donc il y a un petit basculement. Et donc, en fait, regardez la situation, les scolarités des enfants des milieux populaires seulement depuis celle des cadres. Vous voyez, les écarts sont tels que ça ne permet pas de comprendre les petits changements qui se sont quand même passés et qui ne sont pas sans conséquences. Donc ça, c'est la première chose importante à rappeler. La deuxième chose, c'est qu'il y a deux manières, quand on est issu des milieux populaires, d'avoir un diplôme de l'enseignement supérieur, et c'est à peu près les mêmes proportions. Soit on a un BTS, soit on a une licence ou un diplôme de l'université. C'est en noir. En noir sont les diplômes d'université et en gris sont les licences. Pour les enfants des classes moyennes et supérieures, pour les enfants de cadre ou les enfants de profession intermédiaire, ben en fait, il y a une manière d'être diplômé de l'enseignement supérieur essentiellement, c'est d'avoir des diplômes de l'enseignement supérieur long ou de l'université ou des grandes écoles. D'accord ? Maintenant, il faut aussi rappeler que les générations, au fil des générations, les chances scolaires sont particulièrement dépendantes du sexe. Et il y a des écarts particulièrement forts entre les garçons issus d'origine populaire, enfin dont les parents sont ouvriers employés, et les filles. Ce sont les filles, en fait. C'est un des aspects de la seconde explosion scolaire, et qui a été pas forcément très bien documenté pour les classes populaires, c'est que ce sont les filles des classes populaires qui sont arrivées à l'université et qui en sont sorties diplômées, essentiellement. Et que les écarts sont vraiment très importants. Pour les générations nées à la fin des années 70, nées au début des années 80, on a 25 sur 100 enfants des milieux populaires, on a 25 garçons qui ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur égal au bac plus 2. c'est entre 35 et 40 filles sur 100. C'est, vraiment, les écarts sont très très importants. Et donc il faut avoir en tête que quand on va parler de réussite dans les premiers cycles à l'université, quand on va parler de réussite des élèves des milieux, des enfants des milieux populaires, quand on va parler des élèves aussi, en fait on va parler de filles d'origine populaire qui accrochent une licence à l'université. Et on va pas tellement parler, alors qu'on en a beaucoup parlé nous dans la sociologie de l'éducation, des garçons des milieux populaires qui arrivent à l'université et qui ratent, et qui sortent non diplômés ou qui échouent. Et c'était ça le pari de ma thèse au départ. Mon directeur de thèse, Stéphane Beau, avait plutôt documenté par une super enquête ethnographique l'arrivée un peu manquée de quatre garçons dans une université de province, issus des enfants d'ouvriers, des enfants d'ouvriers marocains et algériens qui travaillaient à Sochaux dans les usines PSA. Et il les avait suivis sur 10 ans, et il avait très très bien documenté tous les malentendus en fait, qui s'étaient créés entre leur parcours scolaire, ces garçons, leur milieu d'origine et l'université. Et en fait, il n'avait pas documenté la réussite relative. C'est une réussite relative, mais c'est une réussite quand même des filles. Et ce graphique le montre assez bien, en fait. Hein, sur 100 filles des milieux populaires, voilà, on en a aujourd'hui 35-40 qui obtiennent un diplôme supérieur au bac+2. C'est pas rien. Ça veut dire que pour les filles, l'enseignement supérieur, il est inscrit à l'agenda, quoi. Beaucoup plus que peut-être pour les garçons. Et que, du coup, il y a des scolarités qui vont avec. Donc voilà un peu pour les éléments de contexte qu'il faut avoir en tête aujourd'hui. Alors, je passe maintenant un peu à l'article, à proprement parler. Les élèves entrés en 6e en 95, donc c'est un tout petit peu plus jeune que moi, quoi. Voilà, donc c'est pas tout à fait moi, mais c'est un peu ça. Dans l'ensemble, quand ils sont arrivés, ils ont obtenu leur bac et qu'ils sont arrivés au pied de l'enseignement supérieur, aux portes de l'enseignement supérieur, pour 40% d'entre eux, ils sont rentrés à l'université. On oublie de rappeler ça, c'est que aujourd'hui, c'est l'université qui accueille le gros des troupes des bacheliers qui rentrent dans l'enseignement supérieur. Ensuite, c'est les sections de techniciens supérieurs, 28%. Et puis enfin, les IUT et les classes préparatoires aux grandes écoles, 10%. Mais dans le débat public sur l'université, il y a souvent une part disproportionnée accordée à la question de la démocratisation scolaire dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Et il faut rappeler qu'en fait, les classes préparatoires dans l'école, ils accueillent 10%. Donc c'est pas par ce biais-là, en fait, si on veut démocratiser l'accès au diplôme de l'enseignement supérieur. C'est sans doute pas le levier le plus immédiat, et on va le voir encore moins pour les classes populaires. Bon, alors derrière cette moyenne, en fait, il y a des variations sociales qui sont importantes. Et vraiment, c'était une première mise à l'épreuve de notre petite typologie, là, des ménages populaires, et pour voir un peu ce qui jouait dans les ménages populaires, des petites différences dans les professions des parents, ce qu'elle pouvait produire dans les chances scolaires. Et donc, on a été un peu quand même surpris de découvrir que, en fonction de la fraction, les fractions les plus qualifiées, les fractions supérieures des classes populaires, sont dans la moyenne, en fait. Leurs enfants, à 40% des enfants d'employés et d'employés rentrent à l'université, et puis 36% vont dans les BTS. Mais par contre, dès qu'on va dans les familles ouvrières, ou dans les familles plutôt du bas des classes populaires, des familles où il y en a un sur les deux qui travaille et l'autre qui ne travaille pas, en fait, eh bien, c'est plutôt le STS, les sections de techniciens supérieurs qui captent l'essentiel des orientations. Alors c'est notamment le cas des couples d'ouvriers. Quand il y a une ouvrière et un ouvrier, on a quand même presque la moitié des bacheliers qui s'orientent vers les sections de techniciens supérieurs. Il y en a un peu moins qui vont en premier cycle universitaire. Et puis ça remonte après dans les couples où en fait il y a un ouvrier ou une employée et une inactive, c'est-à-dire où la femme est inactive, là l'université redevient la première orientation après le bac. La raison en fait qu'il y a derrière ça, c'est qu'on a affaire ici à une sous-population très particulière, qui est très identifiable dans ses choix scolaires, dans ses aspirations, c'est qu'on a beaucoup de familles qui ont migré, et des immigrés récents ici. Et que les immigrés récents, notamment, alors ça c'est Yael qui a très bien montré ça, notamment ceux qui viennent du Maghreb, donc c'est-à-dire la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, ont des stratégies, ont des aspirations scolaires, et notamment pour leurs filles, qui passent plus par l'université que par les sections de techniciens supérieurs. Donc ça, ce sont les premières choses à avoir. Donc, on a fait la même chose en fonction des origines migratoires des parents, et puis on a fait bien sûr la même chose en fonction du type de baccalauréat. C'est un indicateur assez classique. Et donc là encore, les bacs généraux s'orientent, il faut rappeler ça, hein, l'université c'est le lieu principal d'accueil des bacheliers et des bachelières, surtout généraux. Plus de la moitié d'entre eux s'orientent à l'université quand ils l'ont en poche. Alors qu'en fait, tout le débat sur la faiblesse, les échecs des bacheliers professionnels et technologiques à l'université, en fait, bah, vous voyez, c'est, pour les bacheliers professionnels, ce sont 13% d'entre eux qui s'orientent à l'université. En fait. Donc c'est 1 sur 10, hein, vous voyez. Pour donner des ordres de grandeur, c'est important d'avoir ça en tête. Quand on parle des bacheliers professionnels à l'université, voilà, c'est à peu près la même chose que quand on parle de ceux qui vont en classe préparatoire. Donc on parle de sous-populations qui ont du sens. Je ne suis pas là pour minimiser ce qui se passe pour les bacheliers professionnels à l'université, mais ce sont des sous-populations qui ne sont quand même pas aussi importantes que ça. L'essentiel des populations, et ce qui avait été, à notre sens, trop peu documenté, c'est l'orientation des fractions supérieures des classes populaires, des filles titulaires de bacs généraux. Et c'était un peu ça, cette énigme qui était passée sous silence dans le débat sur l'université. Alors j'avance un peu plus vite, hein, mais... Donc ça, c'est ce qu'on appelle des statistiques descriptives, et voilà, quand on a des raisonnements un peu statistiques, on essaye de mesurer toutes choses égales par ailleurs. Alors je ne rentre pas dans le détail ici des techniques statistiques qui permettent de faire ça aujourd'hui, et encore une fois, on n'est pas très créatif dans nos usages de la statistique, vraiment c'est assez routinier ce qu'on a fait, il n'y a pas d'innovation majeure, et on a fait ce qu'on appelle des régressions logistiques qui permettent de comparer ce qui est comparable. Alors, on sait que tout n'est pas comparable, que ben, en fait, il y a des situations sociales, il y a des situations scolaires qui sont très différentes. Hein, et donc on essaye de voir, par ce biais-là, qu'est-ce qui différencie plus l'orientation à l'université, toutes choses égales par ailleurs. Donc c'est un raisonnement un peu théorique qui permet de comprendre que l'origine sociale joue de moins en moins dès lors qu'on intègre l'origine migratoire, le sexe et surtout les résultats aux évaluations à l'entrée en 6e. Donc en fait, l'origine sociale, ça veut dire, qui est une grande découverte de la sociologie française, hein, les travaux de Pierre Bourdieu le rappellent, elle est au fondement des inégalités sociales face à l'école, mais en fait, elle joue en amont des études supérieures. Une fois qu'on arrive au niveau des études supérieures, c'est plus l'origine sociale qui joue, puisqu'ils ont été filtrés en fait une première fois, et fortement filtrés. C'est plutôt le parcours scolaire, le sexe, l'origine migratoire. Et donc il y a un effet, l'effet le plus fort, c'est l'effet du bac. Hein, les bacheliers généraux vont 20 fois plus souvent en première année à l'université que les bacheliers technologiques. Toutes choses égales, pareil. Voilà des éléments qui nous permettent, nous, de se dire, pour comprendre la situation, pour la rendre intelligible, il faut un peu la réduire, la synthétiser, et c'est une bonne technique pour le faire. Alors, une fois qu'on a commencé ce raisonnement, comment on rentre à l'université, donc il y a une sorte de contexte historique, que je pense avoir un peu décrit rapidement, il y a des manières concrètes d'entrer à l'université, et puis il y a qu'est-ce qui se passe à l'université une fois qu'on y est, et comment on fait, comment ça se passe aujourd'hui pour obtenir une licence. Alors l'obtention de la licence, c'est un indicateur qui est au cœur du débat public. Il y a toute une série d'indicateurs qui aujourd'hui font partie des clés de l'évaluation de l'enseignement supérieur. Et la réussite en première année a été un des premiers indicateurs mis en avant par le ministère. Bon, nous, on n'a pas voulu se mettre dans ce débat-là. On a juste calculé un taux d'obtention de la licence, quel que soit le nombre d'années après l'entrée à l'université. D'accord ? Donc, voilà, c'est le taux le plus large qu'on puisse avoir. On n'est pas sur la licence obtenir sa première année, obtenir sa licence en 3 ans, l'obtenir en 5 ans. Ça nous semble être on a pris la mesure la plus neutre qui puisse être et la plus extensive qui puisse être avec l'enquête qui suit les entrants dans l'enseignement supérieur pendant 9 années. D'accord ? Alors la seule contrainte qu'on a, c'est qu'il faut être en formation initiale. D'accord ? C'est le seul point. Si on a arrêté plus d'un an sa réinscription, de toute façon on n'est plus suivi par l'enquête. Et grâce à cette enquête, on peut avoir une photographie assez forte des inégalités sociales face à la licence. Donc on a là une première photographie, hein, c'est-à-dire en fait on a 70% des enfants de cadre aux professions intermédiaires qui obtiennent leur licence une fois qu'ils sont rentrés à l'université. Ce n'est le cas que de la moitié des enfants dont les deux parents sont ouvriers. Là encore, ce sont des statistiques descriptives, c'est-à-dire c'est des données brutes. Pas encore dans le raisonnement toutes choses égales par ailleurs, mais il ne faut pas nier que l'échec à l'université, il a une forte couleur sociale. En fait. quand on parle de la démocratisation à l'université, quand on parle de ceux qui n'arrivent pas à obtenir leur licence, en fait, on parle d'enfants dont, principalement, les parents sont ouvriers ou un peu employés. Pour autant, c'était aussi intéressant, grâce à cette nomenclature, d'identifier des différenciations à l'intérieur des classes populaires et de voir que les enfants dont les parents sont employés et ouvriers, voilà, qui est vraiment le couple type des classes populaires, hein, ils sont quand même 60% à obtenir leur licence, c'est-à-dire, en fait, c'est la moyenne, quoi, vous voyez. Donc l'origine sociale joue, mais elle ne joue pas si fortement que l'origine sociale et le parcours scolaire antérieur. Et en fait, c'est un point clé du raisonnement, c'est qu'en fait, origine sociale et parcours scolaire, aujourd'hui, sont fortement imbriqués et produisent des trajectoires qui semblent être au départ des petites différences, qui vont devenir des très très grandes différences et qui sont particulièrement perceptibles au moment de l'obtention de la licence. Alors, donc là, on a croisé l'origine sociale et puis le type de bac et la manière de l'obtenir. D'accord ? Donc en bleu, vous avez les deux parents qui sont cadres ou professions intermédiaires, et en rouge, vous avez les parents qui sont employés ou employés et ouvriers ou inactifs. Donc on a fait des regroupements de cette nomenclature-là. Donc, d'accord ? Parce qu'on commençait à avoir de moins en moins d'étudiants dans l'échantillon au fur et à mesure qu'on les suivait. Et c'est intéressant de se dire que, en fait, les enfants des classes populaires, dès lors qu'ils ont un bac général mentionné, ils ont à peu près les mêmes chances d'obtenir leur licence que les enfants de cadre. Vous voyez, ils ont même, en fait, ils ont même plus de chances, formellement. Alors, je ne défendrai pas mordicus ce pourcentage-là, mais en tout cas, voilà, pour rester sur des ordres de grandeur, avec un bac général avec mention, qu'on soit un enfant d'ouvrier ou un enfant de cadre, on a les mêmes chances de réussir à l'université, et bien sûr, on imagine tous pourquoi, en fait. Parce que ce qui joue à l'université, c'est la sanction de la bonne maîtrise des savoirs liés à l'écriture, au calcul, à tout. Les bacheliers généraux non mentionnés, mais qui ont eu leur bac à l'heure, hein, là aussi, l'effet de l'origine sociale, a priori, il n'est pas très très fort. Quand on a eu son bac général à l'heure, mais sans mention, on a sa licence à peu près, ou même dans les mêmes proportions, qu'on soit un enfant de cadre ou un enfant d'ouvrier. À peu près. Par contre, on commence à voir poindre des petites différences pour les bacheliers généraux qui n'ont pas eu de mention et qui ont eu leur bac en retard. Donc là où il y a eu un accroc scolaire. Il y a quand même 5 points d'écart, même 6, entre les enfants de cadre et les enfants d'ouvriers dans l'obtention de la licence. Donc on voit que les accrocs scolaires, sans doute, ne sont pas les mêmes pour les enfants de cadre et les enfants d'ouvriers, et qui ne témoignent pas des mêmes choses pour les enfants de cadre et les enfants d'ouvriers, et qui n'ont pas le même sens non plus. Et puis enfin, il y a des écarts particulièrement forts chez les bacheliers technologiques et les bacheliers professionnels. C'est là où l'effet de l'origine sociale est le plus manifeste, en fait. Alors en même temps, les enfants de cadre qui ont un bac techno ou un bac pro ne sont pas très très nombreux, en fait. En vérité, la barre bleue, elle devrait être beaucoup plus mince, en fait. Mais quand ils ont un bac techno et un bac pro, ces enfants de cadre, ils ont beaucoup plus souvent leur licence que les enfants d'ouvriers. Donc c'est un diagramme descriptif, on l'a laissé, c'était une bataille avec la revue, de laisser ce genre de données qui nous semble être appropriable par à peu près tout le monde, enfin voilà, avec un pourcentage en colonne, parce que c'est ce genre de données qui manque au débat public, et de se dire comment se joue cette intrication incroyable dans le système scolaire français entre un système sélectif socialement et scolairement. Et en fait, derrière ce parcours scolaire, grâce à cette enquête, on a pu remonter, on a pu tester l'effet de la performance à ces évaluations nationales en français et en mathématiques en 6e. Alors, ces évaluations, elles n'existent pas depuis non plus très très longtemps, elles n'ont été données que pour l'enquête à partir de 1989, mais aujourd'hui elles sont systématiques, donc on a les résultats. Ce sont des évaluations que subissent tous les élèves à l'entrée en 6e et qui testent les performances qui ont une valeur de thermomètre en maîtrise de la langue, en lecture, en capacité à comprendre un texte, et puis en calcul, donc il y a en français, c'est 78 items qui sont vérifiés, et puis en mathématiques, c'est une soixantaine. Là encore, on a divisé, on a fait des regroupements, quoi, et on a essayé de regarder comment se passait ce lien entre l'obtention de la licence, l'origine sociale, et ses résultats à l'entrée en 6e. Et il y a un point assez important à retenir, c'est que 68% des étudiants issus d'une famille où les deux parents sont ouvriers, ou un parent est ouvrier et l'autre inactif, se situant dans le quart des élèves les plus performants à l'entrée en 6e, ont obtenu leur licence. Autrement dit, quand les élèves des familles les plus fragiles socialement sont entrés au collège dans de bonnes conditions scolaires, enfin même dans les meilleures conditions scolaires qui soient, avec une bonne maîtrise des savoirs élémentaires et fondamentaux, dans l'écrit, dans le fait de compter, quand ils se situaient parmi les élèves les plus performants dans le quart supérieur, ils ont leur licence dans les mêmes conditions à peu près que les enfants de cadre, qui eux, quand ils étaient dans des conditions scolaires-là, étaient 71% à l'avoir. Vous voyez ? Donc là, on a un écart de 3 points qui, bon an, mal an, les marges d'erreur, enfin, fait qu'on est sur des ordres de grandeur assez similaires. En revanche, le fait d'être dans le troisième quartile, c'est-à-dire de ne pas être dans le quart des élèves les plus performants, mais d'être dans, au-dessus de la médiane, mais pas parmi les plus performants, là, l'effet de l'origine sociale joue un peu plus. Quand même, la moitié des enfants d'ouvriers qui se situaient dans le troisième quart à ces évaluations ont obtenu leur licence. Mais c'est le cas de 68% des enfants de cadre. Donc, vous voyez que on commence à voir un peu comment se joue ce lien entre origine sociale et parcours scolaire. Et puis, à l'inverse, quand ils étaient dans le premier ou dans le second quart, donc quand ils étaient en dessous de la médiane à ces évaluations nationales, les enfants d'ouvriers ne sont plus qu'en gros un tiers à avoir obtenu leur licence, alors que c'est le cas de 63% des enfants d'ouvriers. Des enfants de cadre, pardon. Donc vous voyez, je compare à chaque fois 34 et 63, 50 et 68, 68 et 71. D'accord ? Donc en fait, on est à un point de l'histoire scolaire française où il ne suffit plus seulement de raisonner en termes d'origine sociale. On ne peut plus vraiment dire « Ah, les enfants d'ouvriers, ces enfants qui sont éliminés systématiquement. » En fait, il se joue des dimensions derrière qui complexifient un peu la lecture des inégalités face à l'université, qui articulent le parcours scolaire antérieur et des dimensions importantes du parcours scolaire. Là, on a un recul très très fort. Hein. On a la licence et l'entrée en 6e. Mais aussi des choses liées au bon fonctionnement de l'école française, en fait. Parce qu'on a deux manières de regarder... on n'a qu'une manière de regarder ça, c'est qu'en fait, on a aussi là la preuve d'un dysfonctionnement assez fort de l'école, du système scolaire français, qui n'arrive pas à transmettre les savoirs élémentaires aux enfants des milieux populaires, et qui, n'y arrivant pas, les laisse continuer sans rattraper les lacunes d'acquisition. Là encore, c'était des résultats descriptifs, et on a essayé, tout chose égale par ailleurs, de confirmer ces hypothèses, en se disant, est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est juste un effet de la structure de la population, ou est-ce qu'on a des moyens de mesurer, de façon comparable, tout ce qu'on a entrevu. Et les effets de l'origine sociale sont encore remarquables dans les modèles qu'on a testés, mais l'effet le plus significatif, le plus fort, c'est cet effet de l'entrée correcte dans les savoirs élémentaires en 6e. Dans tous les modèles qu'on a, tout se passe comme si, en fait, l'obtention de la licence par les bacheliers ne dépendait plus que des apprentissages réalisés dans les enseignements primaires et élémentaires. Dès lors qu'on prend en compte cette variable, elle écrase fondamentalement tous les autres témoins des inégalités. Et donc, c'est un résultat en soi, et c'est un résultat qu'il faut rappeler, en fait, c'est que l'origine sociale et le parcours scolaire, s'imbriquent, et en fait, c'est, pour les enfants des milieux populaires, ça se joue de façon très précoce, en fait, cette capacité à survivre dans le système scolaire français, et ça se joue, en fait, aux primaires et à l'acquisition des savoirs élémentaires de lecture et de numération. Alors, une fois qu'on avait montré ça, on était pourtant conscient, donc ça c'est une manière de raisonner qui nous semble importante, de savoir qu'est-ce qui pèse le plus dans comment obtenir sa licence, mais on était aussi conscient que la réalité était quand même diverse, et qu'il y avait des manières variées d'obtenir sa licence. Et donc, on a essayé d'utiliser une autre technique, alors qu'il y a une technique qui s'appelle l'analyse multivariée, ce qui est une analyse plutôt descriptive, des analyses de correspondance multiples, pour décrire les manières différenciées d'obtenir une licence. Alors, je ne reviens pas trop longtemps sur sur cette technique, mais c'est une technique qui était très très appréciée des premiers travaux de Pierre Bourdieu. Hein. C'est une technique qui est un peu aussi graphique. Enfin, vous allez voir des graphiques qui illustrent ça. C'est ces manières d'obtenir la licence qui sont, enfin, voilà, qui sont assez visuelles en fait et qui permettent de mieux se représenter les manières dont on obtient la licence. Et ces techniques permettent de dessiner ce qu'on appelle l'espace des possibles manières d'obtenir une licence. Donc c'est ça, et on va essayer de voir quelles sont les manières variées dont on peut obtenir sa licence. Et donc à partir de cet espace, ensuite on fait une classification, donc de proche en proche, des parcours, et alors moyennant des arbitrages statistiques, moi là j'ai choisi de m'arrêter à 5 parcours, on pourrait discuter, parce que voilà, typique d'obtenir sa licence, ça s'appelle une classification ascendante hiérarchique. Donc alors là, c'est pas très lisible, et je suis désolé de le présenter comme ça, mais voilà comment est structuré, mais comme je le connais bien, quelles sont les variables les plus actives dans les manières d'obtenir la licence. Donc en fait, la technique permet de créer en fait, deux axes, on va dire. L'espace des manières de la licence oppose en fait quatre pôles. Voilà. Il y a tout d'abord l'axe le plus fondamental, c'est l'axe horizontal qui oppose... la manière de l'obtenir par la voie professionnelle et par la voie générale. Et ça, c'était assez surprenant, en fait, de retrouver des éléments de séparation de l'enseignement secondaire dans le supérieur, et de façon aussi puissante. Et puis, l'autre axe, l'axe vertical, c'est un axe qu'on a appelé d'honorabilité scolaire, voilà, et qui fait qu'en haut, on a les élèves les plus performants du système scolaire français, qui obtiennent leur bac avec une mention bien ou très bien, et qu'en bas, on a des élèves qui obtiennent malgré tout leur bac et qui obtiennent leur licence, mais dans des conditions scolaires plus fragiles, mais qui l'obtiennent quand même. Donc voilà, je synthétise un peu, voilà, c'est ce que j'aurais dû passer cette diapo en même temps que je parlais, mais on a essayé de tenir compte de toutes les variables que j'ai tenues avant, ce que j'ai présenté avant, donc cette opposition entre le général et le technologique et le professionnel sur l'axe 1, et puis l'opposition entre d'un côté l'excellence scolaire en haut, et puis l'honorabilité scolaire plutôt en bas. Alors qu'est-ce que ça donne quand on fait de la classification? Donc là, ce sont l'ensemble de mes 2000 titulaires d'une licence qui sont dans la base. Hein. Il y en a 17 830 au départ, et puis il y en a en gros 2000 qui obtiennent une licence à la fin. Voilà, donc ils sont tous représentés par un petit point, et il y a 5 couleurs, en fait, qui renvoient à 5 parcours types de manière d'obtenir sa licence. Donc, le bleu et le rouge, c'est plutôt des manières de l'obtenir par la voie technologique ou professionnelle. Et puis le vert, le violet et le noir, c'est plutôt l'obtenir par le général. Le vert, c'est plutôt ceux qui l'ont obtenu par un parcours d'excellence scolaire. Et puis le gris, c'est plutôt ceux qui l'ont obtenu, on a appelé ça des parcours de l'entre-deux universitaires. Alors, voilà, je vais décrire rapidement ces parcours, mais ils sont importants à avoir en tête. Hein. Finalement, dans le débat sur les étudiants les plus faibles arrivent en masse à l'université et on doit s'inquiéter aujourd'hui de cette situation, sans doute, mais ils n'obtiennent pas leur licence. Hein, parce que les parcours fragiles et heurtés dans le secondaire, qui obtiennent un bac donc dans des conditions scolaires assez fragiles et qui ensuite obtiennent leur licence, ben en fait, ça représente 7% des parcours d'obtention d'une licence. Et ce sont des étudiants très très singuliers, donc ils ont eu leur bac en 2004, c'est-à-dire avec un ou deux ans de retard dans l'enquête là. Ils faisaient partie donc du premier quartile aux évaluations d'entrée en 6e, ils ont plutôt obtenu une licence professionnelle, ils sont plutôt issus de couples de deux ouvriers, ils sont plutôt des garçons. Et quand on leur a posé dans l'enquête la question de où est-ce qu'ils voulaient s'orienter au moment du bac, ils ne savaient pas répondre. Donc voilà. Cette population qui attire beaucoup de commentaires, en fait, d'accord, mais ils ont peu leur licence, et en fait, aujourd'hui, c'est pas eux le gros des trucs. Il y a un autre parcours qui est plus majoritaire, qu'on n'avait pas vu beaucoup dans la sociologie de l'éducation, et qui représente 22% des étudiants, c'est des parcours qui passent plutôt par la licence professionnelle, après un bac techno ou un bac pro, qui ont eu leur bac ou avec une année de retard, et qui voulaient plutôt un BTS ou un DUT, mais qui sont sans doute passés par là et qui sont venus ensuite à la licence. C'est un parcours qui n'est pas inintéressant. Hein. Donc là, on parle de l'université du début des années 2000, donc aujourd'hui, au début, ça commence juste à les repérer, ces parcours-là. Mais aujourd'hui, c'est sans doute plus important. Et là, c'est un parcours intéressant avec des étudiants qui ont eu des parcours scolaires aussi pas aussi, qui ne sont pas du tout des parcours d'excellence scolaire, hein, situés dans le deuxième ou le troisième quartile aux évaluations entre en sixième, et là encore, sont plutôt des hommes. Et puis, de l'autre côté, voilà, les vertes, on a des parcours d'excellence scolaire, alors on les a appelés des héritières, parce que Bourdieu et Passeron avaient écrit dans les années 60 des héritiers, et en fait, aujourd'hui, ce n'est pas du tout des héritiers, c'est des héritières, hein, ce sont des filles, majoritairement des filles, qui ont eu leur bac après une mention bien ou très bien, qui voulaient une classe préparatoire aux grandes écoles, qui sont pour beaucoup passés par une classe préparatoire aux grandes écoles, et qui n'ont sans doute pas obtenu le concours, et donc qui sont arrivés à l'université, qui ont obtenu une licence, donc qui se caractérisent par des choses liées à l'exigence scolaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail en cours d'études, ou très peu. Elles faisaient partie des meilleurs élèves en 6e, elles ont eu leur bac à l'heure. Elles sont plutôt issues de familles de cadres, et on les retrouve un peu plus en sciences fondamentales. Et puis enfin, voilà, on était content avec Tristan Poulaouec de pouvoir mettre des noms sur ces deux parcours, parce qu'il y a un parcours sur lequel en fait, j'ai fait toute ma thèse. En fait, ce que je vous présente là, c'est un peu le dernier chapitre de ma thèse et son actualisation. Donc les parcours honorables, voilà, qui sont en fait le gros des parcours à l'université. Un tiers des parcours, c'est ce qu'on appelle ces parcours d'honorabilité scolaire. Ce sont des élèves, des filles, qui ont eu leur bac à l'heure, un bac avec une mention à bien, un bac général. Elles voulaient l'université, on les retrouve plutôt en droit, en langue ou en sciences et vie de la terre, voire un bac S, et elles ne travaillent pas régulièrement. Voilà, ce ne sont pas des parcours d'excellence scolaire. On ne peut pas les confondre avec les héritières d'avant, bien sûr. Mais ce sont malgré tout des étudiants... Moi, j'ai été, avant d'être chercheur au CNRS, j'étais quand même longtemps à l'université, et ça s'incarne, en fait, dans mes amphithéâtres, je vois bien à qui j'ai affaire. Et puis un autre parcours qui, lui aussi, était très peu documenté, qui est aussi un parcours assez important qui mène à la licence, c'est ce qu'on a appelé les parcours d'entre-deux universitaires, où là, on a des élèves plus fragiles scolairement, qui ont eu un bac général, mais qui ont eu ce bac sans mention, qui l'ont parfois eu même avec une année de retard. Voilà. Donc il y a eu un accroc scolaire à un moment donné, où il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme c'était prévu dans la scolarité française. Là aussi, ce sont plutôt des filles qui voulaient à l'université et qui n'étaient malgré tout pas des mauvais élèves, qui étaient plutôt des élèves assez performantes à l'entrée en sixième. Mais il s'est passé quelque chose ensuite. Donc voilà la carte. La topographie des manières d'obtenir cette licence. Et juste pour, je prends 5 minutes un peu pour terminer, mais bon, bien sûr, ces 5 parcours ne se retrouvent pas au hasard en fonction de l'origine sociale. Si on les a appelés des héritières, le parcours des héritières, c'est parce que ce sont des filles d'enfants de diplômés du SUP. Mais surtout, ces parcours ne donnent pas lieu au même destin ensuite à l'université. D'accord ? Alors, les premiers parcours, en fait, la classe 1 a les parcours fragiles et heurtés dans le secondaire et les parcours où l'emploi devient un peu durable. En fait, ce sont des parcours qui s'arrêtent à la licence. Très peu parmi eux continuent ensuite. Ce sont des parcours où, bah oui, à la fois l'origine sociale, la manière d'obtenir la licence et puis la fragilité aussi scolaire qui est perceptible, autorise peu la poursuite d'études. À l'inverse, dans les parcours d'héritières, elles obtiennent majoritairement un master, voire même des diplômes d'école ensuite. Donc les manières d'obtenir sa licence permettent elles aussi de comprendre un peu ce qui se passe par la suite. Alors pour conclure, et peut-être je te prendrai une minute pour dire un peu sur quoi on travaille en ce moment, on a bien réussi à identifier avec cette espèce de variable incroyable dont on dispose aujourd'hui, là, ces résultats aux évaluations de 6e, que ce dont ont besoin aujourd'hui les étudiants pour réussir leur licence, ce sont des connaissances et des méthodes liées à l'école qui sont inégalement transmises dans l'école primaire et au collège. Et c'est un des ratés de l'école française, c'est de ne pas réussir à transmettre convenablement ces techniques ordinaires du travail intellectuel qui font que, en fait, les manières dont on a été un élève à l'élémentaire et au collège vont peser durablement dans les parcours d'enseignement supérieur. Et c'est un problème de l'école française que de ne pas réussir à combler ces lacunes, à combler ces apprentissages manqués, à combler tout ce qui se passe mal dans l'entrée, dans les savoirs écrits au primaire. Ensuite, quelle que soit la filière universitaire, on est obligé de rappeler ça, hein, Ce sont les anciens meilleurs élèves du collège et du lycée qui décrochent leur licence et par conséquent des bacheliers généraux. Et c'est aussi, pour certains, ou pour certaines d'entre elles, des bacheliers généraux issus des classes populaires. Mais c'est à cette condition aujourd'hui que les classes populaires accèdent à la licence, c'est quand ils ont eu un parcours scolaire peu heurté ou un parcours scolaire honorable, comme je l'ai un peu décrit précédemment. Voilà un peu pour le papier de l'article, et, enfin le bilan de cet article. Il se trouve que aujourd'hui, on travaille un peu sur les sorties sans diplôme de l'enseignement de l'université, parce que il y a eu aussi un débat assez vif sur les bons indicateurs à retenir pour essayer de caractériser l'échec à l'université. Et c'est vrai qu'une partie de l'échec à l'université est aussi liée à des réorientations dans d'autres filières à l'interne de l'université, mais aussi dans d'autres filières de l'enseignement supérieur. Il y a toute une partie des étudiants qui arrivent à l'université, qui sont à l'université pour attendre quelque chose d'autre. Et donc c'était important d'essayer de proposer ce qu'on avait fait pour la licence, de le proposer un peu en miroir sur ces élèves qui arrivent à l'université et qui au bout de 9 ans n'ont pas eu de diplôme de l'enseignement supérieur, ce qui me semble est une bonne définition de ce que pourrait être une rupture universitaire. Et donc on est en train de travailler dessus avec Tristan Poulavage, donc avec les mêmes données, la même enquête, la même nomenclature des ménages. Et peut-être je dis juste ce point là mais voilà, les sorties sans diplôme de l'enseignement supérieur, c'est d'abord et avant tout le fait des BTS. En fait. Il faut toujours le rappeler. Et que les inégalités à l'intérieur de l'université sont aussi très très fortes. Donc il faut toujours tenir ça. Donc quand l'université est décriée pour son incapacité à faire réussir les élèves, d'une part il faut rappeler qu'elle n'est pas forcément responsable de l'ensemble des ratés du système scolaire, c'est juste qu'elle les enregistre, elle les actualise, et qu'on imagine effectivement ce qui se passe dans les premiers cycles de l'université quand la socialisation scolaire, la bonne maîtrise des techniques du travail intellectuel n'ont pas été convenablement transmises. Et c'est vrai que ça existe, il ne faut pas nier le fait qu'il y a une part importante, par exemple en SHS, donc c'est un groupe de disciplines, mais on a 23% des élèves qui entrent en SHS qui sortent sans diplôme 9 ans après leur entrée en sciences humaines et sociales. Donc, il y a c'est pas rien. Mais que c'est d'abord et avant tout en BTS que se joue la sortie sans diplôme de l'enseignement supérieur. Et qu'à l'inverse, il y a des facultés, où il y a des filières où en fait, il n'y a pas de sortie sans diplôme, où c'est beaucoup plus rare, notamment en sciences, il faut le rappeler. En sciences, sur 100 élèves qui rentrent en sciences, il y en a 14 qui sortent sans diplôme 9 années plus tard, donc c'est pas rien d'avoir ça en tête. Et bien sûr, en médecine et en pharmacie, c'est personne. Hein ? Donc le sens de l'échec à l'université, le sens des ruptures à l'université, il n'a pas du tout la même signification selon que l'on rentre en médecine et selon que l'on rentre en SHS. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a ce fameux parcours scolaire antérieur. On sait très bien l'échec peut-être en première année d'AES, il n'aura pas la même conséquence scolaire et sociale que l'échec en première année de médecine. Et que c'est pour ça que ce n'est pas le même taux de sortie sans diplôme. Et là encore, cette part de sortie sans diplôme de l'enseignement supérieur, elle est très variable en fonction des filières d'entrée, mais surtout elle reste très variable en fonction du niveau à l'entrée au collège. C'est parce qu'ils étaient des élèves avec des fortes fragilités scolaires à l'entrée au collège que les élèves qui rentrent en BTS, qu'une partie d'entre eux sort sans diplôme, d'accord, une fois qu'ils sont rentrés en BTS. Donc, il faut comprendre ces mécanismes-là, en fait. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et il faut aussi avoir en tête que, quand même, ces élèves, tout fragiles qu'ils étaient scolairement, sont quand même rentrés dans l'enseignement supérieur avec des aspirations très fortes en matière de diplôme. Hein, c'est un argument qui, je trouve, ne tient pas dans le débat actuel, c'est de se dire... Oui, mais ils viennent à l'université pour attendre et ils espéraient pas grand-chose. En tout cas, quand on leur pose la question, ils aspirent tous aujourd'hui au minimum à un bac plus 2 et en fait tous, ils veulent en grande majorité un bac plus 3. Donc on ne peut pas se permettre, je pense, de minimiser certaines ruptures qui se passent majoritairement en STS, mais aussi dans certaines filières à l'université, en se disant qu'ils sont un peu là pour ne pas aller sur le marché du travail, parce qu'aujourd'hui, je pense que la plupart des étudiants ont intégré l'idée qu'il fallait avoir un diplôme pour espérer s'en sortir sur le marché du travail. Voilà, j'ai été très très long, j'ai tenu une heure, je pourrais un peu détailler bien sûr que le fait que ces ruptures universitaires, ces 100 diplômes du supérieur sont bien sûr pas neutres scolairement mais socialement non plus, donc sont plutôt des enfants des familles populaires. Et voilà, je vais m'arrêter là et je vais vous laisser me poser toutes les questions qui vont pas manquer d'arriver suite à tous ces résultats.
Écoutez, on vous remercie. Hein.